Imaginez un monde où tout ce que vous écrivez prend vie. Que feriez-vous alors si le papier, disparu depuis plus de 200 ans, réapparaissait entre les mains du plus grand esprit criminel de ce siècle ? À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les forces de police de City Hall vont devoir faire appel aux deux plus fines plumes de Londres, Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Une mission en 3 tomes. Tome 1 disponible le 14 juin en librairie.
Bienvenue à tous et bienvenue dans l'univers de City Hall. Alors City Hall, bande dessinée manga qui va nous plonger dans un, comment dire, dans un univers assez steampunk et où le manga va rencontrer les grands créateurs de la science-fiction du 19e siècle. Alors, donc, je vais vous présenter les auteurs. Guillaume Lapeyre, dessinateur, Rémi Guérin, scénariste, et puis ils vont vous expliquer, question toute simple, comment ça a commencé.
C'est une longue histoire. Je commence ? Ben non, c'est toi à l'origine du truc. Bon, je la fais courte. Ça commence un dimanche après-midi pluvieux chez toi, devant un reportage sur Arte. Alors peut-être que la télécommande était posée sur la table et tu avais la flamme de zapper.
Beaucoup trop loin en tout cas.
Beaucoup trop loin.
Ouais, beaucoup trop loin.
Et donc le titre t'est apparu puisque c'est un documentaire sur l'actuelle mairie de Londres, hein, cette sorte de devenir architectural en forme d'ogive avec les escaliers qui tournent autour. Et je reçois un coup de fil, j'étais en train de travailler avec lui sur la précédente série aux éditions Soleil, et il me dit je viens d'avoir un super titre, il faudrait qu'on fasse une BD qui s'appellerait City Hall. Je lui dis ouais super, bon, pourquoi pas, ça parle de quoi? Il me dit je te rappelle plus tard.
Ça marche?
Non.
Si, alors pour la petite anecdote, je l'ai rappelé 3 ans plus tard.
Hein. 3 ans plus tard.
3 ans, ouais. Voilà, en fait, c'est vraiment né comme ça. C'est né d'abord du titre, un reportage tout bête et un titre qui claque et qui m'a donné envie de faire ça. Et ensuite, l'envie toute bête de... Je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Donc j'avais envie de faire la mienne, mais un petit peu différemment de celle qui existe déjà et de façon un peu plus humble aussi. Et je me suis demandé à quoi pourrait ressembler une Ligue si elle était constituée de personnages ayant réellement existé. Et bah, il m'a paru assez évident et très rapidement que le leader d'une telle ligue serait Jules Verne. Voilà, qui est un des pères de la science-fiction, le père du steampunk. Et voilà, c'est comme ça que c'est né au départ. Et tu veux que j'aille un peu plus loin dans l'explication ou...
Pour l'instant, ça va. Il faut quand même rappeler que la Ligue des Gentlemen utilise des héros qui ont été créés justement par Jules Verne et beaucoup d'auteurs du 19e siècle. C'est vrai que la filiation est absolument évidente, quoi. Moi, quelque chose que je trouve remarquable dans vos albums, je trouve, c'est les couvertures. Je trouve que, comment dire, le design, les couleurs, quand on voit ces couvertures, ben, on a l'impression d'être dans des ouvrages qui sont, comment dire, assez précieux. Hein, c'est précieux, c'est joliment fait. On a envie de rentrer dedans. Et je pense que le travail de maquette et de travail d'organisation a dû quand même quelque chose d'assez... je vais pas dire compliqué, mais qu'a dû, comment dire... Vous demandez pas mal de réflexion.
Ça a été une grosse réflexion mêlée étroitement avec l'équipe éditoriale de Ankama. Ce qui est génial avec Ankama, c'est qu'un jour, ils nous ont appelé. C'est la première fois. Ça fait 10 ans que je fais de la BD. C'est la première fois qu'on me dit, les gars, pour la coupe, vous voulez quoi? Vernis sélectif, contour doré, la tranche aussi texturée. Oui, tout, oui, c'est bon, c'est bien. On a fait énormément, j'ai fait énormément de croquis de couverture, je crois que j'en ai fait une trentaine. Parce qu'on partait toujours sur une représentation typique des formats franco-belges. Donc ça, c'est mon 12e album, mais mon premier manga. Jusqu'au final, se dire, ce qui est important dans les mangas, c'est que le titre prenne autant part dans la maquette de la couverture que le dessin lui-même. Et on a eu l'énorme chance d'avoir le designer de l'identité graphique de Wakfu et Dofus qui s'est occupé de notre logo. Et on a choisi celui-là parce qu'il rappelait plein de choses. Il y a le côté steampunk avec les rouages, il y a la ville en haut qui représente pas mal. Ça fait en même temps un signe de police, donc il y a un côté enquête qui est important dans l'histoire. Et en fait, moi, je trouve que c'est... c'est pas mal. Après des essais infructueux, c'est plutôt bien.
Bah, je pense qu'elle est quand même, le fait, elle est quand même une grosse part de responsabilité dans l'intérêt que peuvent avoir les lecteurs pour cette, ou même un lectorat qui connaît pas du tout un lectorat de BD traditionnel ou un lectorat de science-fiction, de steampunk ou d'albums classiques, va s'y intéresser parce que cette couverture, elle attire. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit là, bon, mais je vais aller voir ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais. On a envie de l'ouvrir. Alors, donc, vous avez choisi quelque chose. Vous venez tous les deux normalement du, comment dire, de la BD format franco-belge, 46 pages, cartonné, couleur. Classique. Et là, vous avez décidé de mettre ça de côté pour l'instant et de faire, alors, de choisir la forme de manga. Vraiment, purement l'histoire, manga, c'est-à-dire noir et blanc, dynamique, 130 pages par album à peu près. 160 pages par album. Alors, pourquoi ce choix?
Il y a deux versions. Je laisse commencer.
Il y a plusieurs raisons. Je vais vous donner toutes les raisons, en tout cas, qui sont les miennes. On verra ce que Guillaume dit derrière et s'il confirme ce que je dis. Parfois, il aime dire l'inverse de ce que je raconte.
C'est vrai.
La première, elle est purement pour du plaisir, mais je laisserai Guillaume en parler parce que ça, c'est sa partie à lui. Ensuite, la mienne, elle est purement pratique. Scénaristiquement, c'est mon 10e album. J'ai toujours été sur du format 46 planches. Je me suis toujours trouvé contraint par ce format qui est très très fermé, qui est très très court, qui laisse peu de place pour raconter une histoire ou développer des personnages, qui doit toujours aller très vite, qui impose un rythme un petit peu particulier. Et je me suis jamais senti réellement à l'aise en fait dans un format comme celui-là. Et j'avais enfin l'opportunité ou la place de raconter une histoire, de réellement la développer, de m'attarder sur des détails qui finalement ne sont pas que des détails. Et tout ça en 160 pages, et même en 3 fois 160 pages, sans compter le fait qu'on était capable de réaliser 3 fois 160 pages en 1 an et demi, là où pour réaliser la même chose au format franco-belge en couleur, il nous aurait fallu quasiment 9 ans ou 10 ans. Donc en termes d'attente, c'est pareil, c'est pas la même chose non plus. Et puis ensuite, pour des raisons économiques, je sais pas, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont aussi des lecteurs de BD ou de comics ou de manga. C'est un média qui aujourd'hui est extrêmement cher. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. C'est un luxe. On doit vraiment faire un tri, on doit sélectionner. C'est compliqué tous les mois de se dire de se faire plaisir parce qu'on finalement on se fait jamais complètement plaisir parce qu'on peut pas tout prendre. Voilà, c'est 15€ le bouquin, c'est, à mon sens, ça devient inabordable. Et une bonne solution pour ça, c'était de proposer une histoire qui est du corps et qui est un nombre de pages pour un prix plus raisonnable, même si ça voulait dire de se passer de la couleur, et même si ça voulait dire le faire sur un format sur lequel moi je suis pas un lecteur au départ, je suis plus un lecteur de comics. Donc c'est vrai que le manga, quand je me lance là-dessus, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Et c'est là que Guillaume intervient justement.
Alors bien évidemment, tout ça est absolument faux. On avait préparé, suite à la dernière série que nous avons fait aux éditions Soleil, et vu l'arrêt de cette série-là, on a essayé de préparer de nouveaux projets pour avoir du travail. Et on est monté à Angoulême avec 5 projets, et je soupçonne que tu pensais que c'est un autre projet qui passerait, et pas City Hall. Et du coup, tu t'es retrouvé bien embêté.
C'est pas du tout mon genre.
Alors, c'est vrai que j'avais demandé à Rémi, pour un de ces 5 projets-là, de faire au format manga, puisque moi, je fais partie de la génération Club Dorothée, j'ai grandi avec le manga, Dragon Ball, Akira, et tous ces grands trucs. Et je voulais en faire, sans avoir eu l'opportunité jusqu'à présent d'en faire un. Une fois qu'on a présenté ce projet-là au format manga chez tous les éditeurs classiques, ils nous ont répondu la même chose. L'univers, il est bien, l'histoire, elle est bien, le dessin, ça marche. Mais les gars, le manga français, ça marchera jamais. Voilà. Il n'y a que Ankama qui nous a dit, OK, banco, on y va, on fait comme ça.
Pour en revenir à l'histoire, donc, le pitch de la série, c'est, comment dire, le papier va disparaître et le numérique va arriver. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qu'on peut placer sur notre époque actuelle où il y a quand même tous ces débats autour du papier, du numérique dans l'édition, papier dans l'édition, dans la bande dessinée, tout ça. C'est un choix volontaire, ça? Il y a le côté un peu clin d'œil?
Non, pas du tout. Pas du tout. City Hall n'est pas visionnaire. Demain, le papier ne sera pas supprimé au profit du numérique. En tout cas, c'est pas mon point de vue à moi. Je pense que le livre numérique est une belle invention, un beau progrès. Il y a beaucoup de nouvelles générations, nos enfants les premiers, qui seront sûrement des lecteurs de livres numériques parce que l'habitude aidant, et je pense notamment à des tablettes, on cite pas de marque, mais l'iPad en premier, sont des produits qui aident beaucoup à ce genre d'utilisation. À mon sens, se contenter de scanner un livre et de le mettre sur un support numérique, quel qu'il soit, ça n'a pas de sens. Autant garder le contact avec le libraire, autant aller se faire renseigner, autant avoir le plaisir d'emmener un bouquin et de le feuilleter, et de corner les pages si on en a envie, ou de le stabiloter. si on doit faire du livre numérique demain, il faut que ce soit interactif. C'est le livre numérique interactif, c'est le livre de demain. Il sera complémentaire du livre papier. Les deux continueront d'exister. En tout cas, c'est, je ne suis pas en train de faire une prédiction, attention. Hein, je pense que ça se passera comme ça, en tout cas.
Merci, Paco.
Avec plaisir. Donc, le manga, quand même, répond à certains codes, à certaines règles. Donc, et le manga est quelque chose qui met en scène des personnages, des héros. Donc, pour construire votre histoire, il vous a fallu faire un casting. Alors, ce casting, un casting de choix de personnages, un casting aussi pour toi d'esthétisme. Oui. Parce que quand on regarde la couverture, on regarde ce personnage, on regarde les planches, on voit des choses. Il y a quand même un certain esthétisme manga dans le dessin. Tout ça. Comment vous avez travaillé pour arriver à trouver ces personnages? Vous pouvez nous les décrire un peu les uns après les autres?
Oui, on peut. On va parler du casting scénaristique et puis après on parlera du casting dessin. Donc je me retrouve avec mon envie de faire une ligue des gentlemen extraordinaires et une enquête policière parce que j'adore ça. J'ai Jules Verne et j'ai juste Jules Verne au départ. Et je me dis, bon, ça va être génial, il va y avoir Jules Verne, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Au départ, je pars sur une enquête tout à fait classique. Il va probablement aider la police parce que c'est un inventeur génial et bon, ouais, quand même tout seul, c'est quand même pas un flic, Jules Verne, il faut pas exagérer, il va pas avoir ça en plus pour lui. Il y a déjà beaucoup de choses. Je vais essayer de l'associer dans son groupe à une espèce de super détective. Et je me dis, bah, Sherlock Holmes. Ouais, mais Sherlock Holmes, c'est stupide, effectivement, il n'existe pas. Donc, comment faire pour expliquer la rencontre entre ces deux-là? Trop compliqué, ça n'a pas de sens et ça perdrait de l'intérêt. Et je me mets à chercher qui pourrait être aussi bon, sinon meilleur que Sherlock Holmes. Et je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Donc ça, c'est Jules Verne. Et je trouve pas.
Et comme Batman, il n'est pas disponible.
Voilà. Et je trouve pas. Ouais, Batman n'était pas disponible, il était pris. Donc du coup, je réalise qu'il existe peut-être une personne qui est au moins aussi... aussi doué que lui, c'est probablement son marionnettiste ou son créateur, donc Arthur Conan Doyle. Et je me dis, ah, c'est génial, on va mettre Arthur Conan Doyle. Et là, c'est seulement là, une fois que le casting a commencé, que l'histoire prend forme, parce que j'ai pas encore cette idée de papier qui a disparu et qui permet de, et qui est devenue une arme de description massive ou de destruction massive. J'ai vraiment juste une idée d'enquête policière, mais j'ai deux écrivains. Donc la naissance autour de l'histoire et du papier prend forme. Et je me dis, bon, ok, ils sont tous les deux, ils sont écrivains, ils sont sympas. Ils sont jeunes, c'est probablement deux blaireaux. En tout cas, c'est deux garçons. Il y en a un qui est plus ou moins prépubère, faut pas exagérer. Si on les colle dans la rue, qu'ils doivent se battre, on n'y croit pas trop. Quoi.
Ils ont des bac L, donc c'est
pas... Ouais, en plus, ils ont fait un bac L, ouais, effectivement. On va pas s'en sortir. Donc, parce que bon.
Non, c'est vrai.
Hein. Ouais, c'est vrai. Je le sais, j'ai fait un bac L.
Moi aussi.
Donc, je me retrouve avec ces deux-là et je me dis, bon. Pensons les choses différemment, essayons de réfléchir à un groupe cohérent. J'ai un inventeur, j'ai un enquêteur, il me faudrait un aventurier, il me faudrait un leader, un vrai leader, et il me faudrait éventuellement un manipulateur ou un magicien, quelque chose qui puisse donner un petit peu de ressort à mon histoire. Et là, je me mets à chercher qui pourrait être mon aventurier ou mon aventurière. Je crois que c'est la numéro 3, il me semble, peut-être, je sais pas si... Ou... Enfin, le perso... Voilà, c'est elle. Bon, elle n'était pas aussi sexy dans la vraie vie, mais en tout cas... C'est Amelia Earhart qui est donc la première femme à avoir traversé l'Atlantique. Oui, elle a changé. Hein.
Moi, ce que je dis, c'est ce qu'elle met en avant le plus souvent, c'est ses flingues. C'est mon avis personnel.
Tout est une question de point de vue, en fait. Et donc, on se retrouve avec Amelia Earhart qui est une super aventurière. Et puis, je trouvais ça intéressant d'avoir un personnage féminin qui soit en fait le protecteur du groupe. J'ai besoin d'un leader. Alors, je ne sais pas si c'est l'image d'après le. Non, ça, c'est Arthur Conan Doyle. C'est pas lui non plus. Lui non plus. Ouais, c'est lui. Et je me dis, tiens, il me faudrait un leader, ça pourrait être le maire de Londres. Et puisqu'on n'a pas peur de bousculer toutes les convenances depuis le début, on n'a qu'à dire que c'est Malcolm X.
C'est Malcolm X. Et oui, comme il ne sait pas écrire, il signe avec une croix.
Ouais, il signe d'une croix. Voilà. C'était là. Merci. Donc on a Malcolm X, on a un leader, et il me manque mon manipulateur. Et là, ça n'a pas fait un pli, puisqu'il apparaît dans le deuxième volume, donc vous ne le verrez pas là, mais c'est Harry Houdini. Donc c'est le grand Houdini qui va jouer le rôle du manipulateur. Et on a une équipe de formés, l'histoire commence à prendre forme à ce moment-là, mais reste toujours effectivement le problème du casting graphique, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit tous des gravures de mode dans la réalité, quand même. Il faut dire les choses comme elles sont.
C'est pas gagné. Le jour où j'ai reçu la description des personnages, parce que Rémi fonctionne avec des fiches de personnages très détaillées avant de commencer les designs du dessin, donc j'avais ma feuille blanche sur mon bureau, et à gauche, je venais de revenir de Auchan, voilà. Et j'avais acheté le premier tome de Bakuman, je ne sais pas si vous connaissez Bakuman, voilà, donc de Takeshi Obata, l'auteur de Death Note auparavant, que j'adore, Et donc je savais que ça sortait. Ah, je l'avais acheté, je l'avais pas encore lu, donc il était à gauche là de la feuille. Donc à gauche, j'avais une série où on parlait de deux apprentis mangaka, un scénariste, un dessinateur. Et de notre côté, j'ai Jules Verne et Arthur Conan Doyle à designer. Je dis, on va pas le faire. Bon, si, on le fait. Du coup, il y a une étroite ressemblance. Mais en même temps, c'est assumé, c'est amoureux. Parce que j'ai une dédicace de lui que j'ai à gauche sur l'étagère. Je me penche chaque matin. Je donne-moi la force, Takeshi. Et voilà. Et du coup, pour ces deux-là, ça a été la ligne directrice de tous les autres, en fait.
D'accord. Donc, t'as
j'ai pompé.
Ouais, t'as pompé sur Bakuman. Complètement sur l'histoire des mecs là, qui veulent devenir mangaka
c'est
et tout. Là.
C'est ça.
Moi, je voudrais que tu développes pourquoi t'as représenté Amelia comme ça, en fait.
Parce que quand tu tapes Amelia Earhart sur Google, c'est pas gagné. Tout simplement. Ni Jules Verne, ni Conan Doyle. Je la respecte.
T'as pas vu de photo d'Amelia Earhart, t'as pas de documentation, t'as rien.
J'ai vu La Nuit au Musée 2 comme tout le monde.
Ouais, c'est tout.
Qu'est-ce qui t'a fait choisir d'aussi gros flingues en fait pour dessiner Amelia?
Écoute, c'est pour intéresser les jeunes à la culture.
Donc finalement, on s'aperçoit que dans les codes du manga, il faut des gros flingues. Pour
oui.
les femmes. Hein.
Bah oui, ça semble évident. Hommes, c'est mieux. Non,
non. Non, il ne faut pas de gros flingues. Bon, mais il m'a toujours pas dit pourquoi vous avez choisi de faire du manga, la forme manga, le type de narration manga. Bon, parce... Il m'a dit parce qu'il y avait plus de pages, mais il y a quand même des codes autres qui forcent à ça.
Bah, c'est le manga.
Toi, t'es tombé dans la marmite.
Voilà. D'accord. Ce que j'adore dans le manga, ce que j'adore dans les séries américaines, ce que j'adore dans le comics, mais que je ne retrouve pas encore dans la BD franco-belge, désolé pour ceux qui aiment la BD franco-belge, c'est le côté feuilleton de la chose. J'ai jamais ressenti autant d'excitation à la fin de volume qu'en lisant un manga.
Il semble logique quand même quand on met en scène Jules Verne ou Conan Doyle de faire du feuilleton parce que leur principe d'écriture c'était le feuilleton hebdomadaire où tous les jours ils écrivaient un bout d'histoire quoi.
C'est
un principe fonctionnel qu'on retrouvait aussi, moi je me souviens dans les années 60 aussi, ce qu'on appelait les BD de gare à l'époque et qui est un peu le même principe que le manga, c'est-à-dire on fait de la poche toutes les semaines avec des auteurs qui étaient plus ou moins bons mais on faisait dans ce principe-là et ça je trouve ça intéressant parce que la forme justement se prête au feuilleton, pas le 46 et ses couleurs, se prête pas du tout parce que la publication est tellement longue. Quoi.
Non, mais c'est ça. Et puis, comme le disait, on parle de feuilleton, mais c'est vraiment dans tous les sens du terme, parce que comme le disait Guillaume, on est des gros consommateurs de séries télé. J'imagine, comme beaucoup d'entre vous, rassurez-moi, je vois beaucoup de oui, ça me rassure. Et effectivement, on voulait quelque chose qui soit conçu de la même manière, qui soit aussi dynamique, qui termine systématiquement sur un cliffhanger un petit peu énervant où tu as envie de taper l'auteur quand tu as fini de lire les bouquins et de lui jeter des pierres quand tu le croiseras. Et voilà, c'est le rythme de parution très élevé et surtout la quantité de données qu'on pouvait écrire ou dessiner dans un bouquin nous permettait de faire ça. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt appréciable. Ouais.
Ouais, on peut parler par un pan pour vos histoires. On peut dire, comme dans les feuilletons, que vous allez faire une saison 1, saison 2, saison 3.
En gros, oui, la saison 1, c'est 3 volumes. Quand vous commencerez le premier, les questions qu'on soulève avec ce premier tome trouveront toutes les réponses. Vous saurez qui est le méchant, pourquoi il fait tout ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il cherche. Et comme ça se passe plutôt bien, il faut l'avouer, quoi, on saura très très vite s'il y a un 4, 5, 6 derrière avec un nouvel enjeu. On a déjà une très bonne idée. Ça va être mortel. Et voilà, qu'on repartira sur une sorte de saison 2, un cycle 2. Voilà.
Donc, premier album. Non, on ne peut pas appeler ça un album. Comment on peut rappeler ça plutôt qu'un album
volume,
premier livre.
Ouais, premier livre.
Premier livre, joli succès, puisqu'il est en réimpression. Le deuxième, c'est parti pareil. Alors, est-ce que toi, Rémi, tu avais écrit l'histoire complète quand vous avez commencé? Ou c'est quelque chose comme les feuilletons qui a évolué au fur et à mesure de ce qui se passait ou de ce que tu retrouvais, quoi?
Alors j'aurais tellement envie de dire que j'ai tout écrit à l'avance et que je suis organisé au point de tout prévoir à l'avance, mais c'est absolument pas du tout le cas. Non, évidemment, on a une trame qui est déjà pré-écrite ou pré-pensée, on va dire, parce que écrite, ce serait vite dit. On a une fin qui restera celle qu'elle est depuis le début et vers laquelle on tend, mais tout ce qui se passe entre les deux, vous avez l'impression de le lire comme un feuilleton, moi j'ai l'impression de l'écrire comme un feuilleton, c'est au jour le jour... voire à la minute, il est arrivé à plein d'occasions que j'appelle Guillaume en lui disant, enfin, écoute, je vais me mettre sur l'écriture de ce chapitre-là, ça va parler de ça, il va se passer ça et ça et ça et ça. Il me dit super, ça me plaît beaucoup. Et quand je lui livre le chapitre, il me dit mais c'est pas du tout ce que tu m'avais raconté. Bah non, parce qu'en fait, les personnages ont décidé de faire autre chose. Alors, ça peut peut-être vous faire sourire, mais les personnages décident plus que moi de la direction que prendra l'histoire. Ils ont chacun a sa fiche de perso et son background très précis, leur manière de penser, leur caractère. Et parfois, j'ai envie de les mettre dans une situation et je les y mets. Et ils réagissent ils réagissent pas du tout comme je l'aurais pensé. Parfois, c'est agréable de voir ces personnages s'échapper en fait et prendre de la distance. C'est difficile de les contrôler, surtout que Jules Verne a quand même un sale caractère. Enfin bon, ça je. Mais ouais, du coup, c'est vraiment au jour le jour, quoi.
Alors, t'es en train de nous dire que la réalité rattrape la fiction, parce que dans le thème de l'histoire, c'est que tout ce qui est sur papier devient vivant.
C'est exactement ça.
Tout ce qui est décrit avec fidélité a une chance
de prendre vie, ouais. De prendre vie. Mais effectivement, voilà. C'est ça. C'est vraiment dur à concevoir. Enfin, je peux le concevoir, en tout cas, que ce soit difficile à appréhender. Mais je vous assure qu'il y a une partie de cette histoire qui a été écrite par eux et pas par moi.
Sans déconner.
C'est vrai.
L'autre est beau.
Mais ils sont pas payés. Mais eux sont pas payés.
Alors, par qui c'était dessiné?
Mon garage d'assistant chinois.
Non, parce que est-ce que t'as le même phénomène, toi, quand il te met ça sur papier, et ton bras part, et le dessin part comme ça d'une manière complètement autonome, ou t'es obligé de guider ton bras
Non. J'ai la chance, et c'est vrai, je veux pas te caresser dans le sens du poil pour le plaisir devant plein de gens, mais
ouais, évite de me caresser dans le sens du poil.
À contre-sens, peut-être. Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé d'avoir la page blanche. C'est un scénariste suffisamment visuel pour qu'à la lecture, d'abord il me le lit. On a un forfait illimité, donc c'est bien. Donc il m'appelle et il me lit le scénario qu'il vient d'écrire. Comme ça, il teste mes réactions, mes temps d'attente, ou au contraire, les trucs qui ne marchent pas. Et jusqu'à présent, j'ai toujours eu les images directes de suite. Donc après, c'est plus que de l'exécution.
L'exécution, tu l'as fait comment? Sur planche papier ou à l'ordinateur?
Je suis au papier à la main.
Ouais, remarque, c'est normal pour la série, tu es obligé de la faire sur papier.
Ouais, il y a des logiciels.
Ouais, remarque, tu pourrais la faire aussi sur numérique, ça jouerait sur les deux côtés, non?
Oui, ce serait rigolo dans l'idée. J'ai un rythme de production assez élevé, et merci Ankama de ne pas me faire avoir de vie. Et en même temps je le vaux bien, donc je vais déjà suffisamment rapide à la main, je fais entre une et deux pages par jour, voire plus quand j'ai la forme, mais plus les jours avant c'est moins j'ai la forme. Et si je devais bosser avec des logiciels comme Manga Studio qui font très bien le boulot, je sais pas, j'ai l'impression que je devrais ralentir pour dominer la bête avant de retrouver mon rythme, et là je peux pas me permettre ça.
Alors on va revenir sur plutôt un effet. Bah, sur le scénario, et puis c'est cette histoire du numérique qui s'impose et qui devient une nécessité. Voilà, ça m'intrigue beaucoup parce que, Internet, bon, on peut comparer ça à Internet dans l'histoire de City Hall, ça devient une nécessité de survie. Ça, c'est pourquoi avoir choisi ce thème, Rémi?
Alors, est-ce que tout le monde connaît l'histoire de City Hall ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous la pitch en quelques secondes? Je vais commencer par ça et vous allez comprendre la raison pour laquelle on a développé l'univers de City Hall dans ce sens-là. Donc ça se passe à Londres au début du XXe siècle, donc dans un environnement très steampunk. Le ministre des Finances se fait assassiner dans des circonstances un petit peu mystérieuses et le chef de la police, qu'on a vu tout à l'heure avec son grand chapeau, est dépêché sur place pour enquêter sur les circonstances de ce meurtre. Et ce qu'il découvre sur le corps de la victime, c'est une feuille de papier à moitié calcinée sur laquelle quelque chose est griffonné. Et pour une raison qu'on ignore, ça le terrifie. Ça le terrifie au point qu'il prend cette feuille, fonce directement à City Hall, à la mairie de Londres, débarque dans le bureau du maire sans préavis, pose la feuille sur le bureau et lui dit « Le monde tel qu'on le connaissait
a cessé d'exister. »
Le maire voit la feuille et lui, à son tour, s'effondre aussi. Et en fait, on découvre que dans cet univers, le papier a disparu depuis plus de 200 ans. Le papier n'a plus cours, il n'est plus fabriqué, plus personne n'en a la recette et plus personne ne l'utilise. Officiellement, c'est pour des raisons écologiques. Évidemment, les raisons officieuses sont tout autres, puisqu'en fait, tout ce qu'on décrit prend vie. Donc le papier est devenu une arme de description massive. Et cette arme, un criminel la possède, puisqu'il a du papier. Il est dans la rue, tout seul, livré à lui-même, avec de quoi écrire. Il sait écrire, parce qu'évidemment, dans un monde dans lequel il n'y a plus de papier depuis 200 ans, plus personne ne sait écrire, l'écriture manuscrite n'est plus enseignée. Et lui, il s'en sert pour tuer. Donc la police n'est pas du tout armée pour riposter face à un criminel de cette envergure, dont on ignore en plus les dessins. Et là, le maire décroche son téléphone et dit « Appelez-moi Jules Verne ». Donc Jules Verne débarque accompagné de son assistant, enfin plutôt du porteur de sa machine à écrire numérique, qui s'appelle Arthur Conan Doyle, qui est encore un jeune pécor. Et on leur explique la situation, on leur confie le dernier carnet qui reste dans les coffres de Londres, et on leur dit « Voilà les gars, vous allez descendre dans la rue ». Vous allez devoir écrire dans ce carnet si le cas se présente, et surtout vous allez devoir découvrir l'identité de celui qui fait ça et l'arrêter, quels qu'en soient les moyens. Donc, ça c'est l'histoire, c'est vraiment le début. Dans un monde comme celui-là, enfin, en tout cas ma conception des choses, puisqu'on était reparti sur créer un univers, c'est qu'il est impossible de... que le monde survive sans communiquer. Or, le papier, il y a 200 ans et encore maintenant, est vraiment un moyen de communication premier. Même si le numérique a la part belle et Internet en premier, le papier reste quand même un moyen primordial de communication. Donc dans un monde dans lequel il n'y a plus de papier, évidemment, même si on est au début du XXe siècle, on est parti de l'idée qu'il était vital de développer Internet, à 80 ans plus tôt que prévu, et pour des besoins autres que dans notre monde à nous, puisque c'est les militaires américains qui ont développé ça pour des... pour des raisons de...
pour communiquer.
Ouais, pour des raisons de communication.
Pour faire la guerre.
C'est ça. Là, c'est vraiment une question de survie. Donc, les machines à écrire sont reliées à des écrans LCD. Les écrans LCD ont déjà été inventés au début du XXe siècle. Et évidemment, Internet existe déjà. Et ça fait de cet univers steampunk un univers que nous, on qualifie de Steamnet, en fait. Parce qu'en fait, on a respecté tous les codes du steampunk en dehors de celui-là, mais parce que ça se justifiait.
Il est fantastique. T'es un dessinateur pour ça ou...
Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui vont voir.
Je cherche quelqu'un pour la deuxième saison, en fait, si ça t'intéresse.
Merci, à bientôt.
Donc, tu as posé la problématique de la série, donc on va commencer à inventer le numérique. Alors, le numérique que tu choisis, tu peux le développer un peu parce qu'il y a seulement des particularités, quoi. Ou il est très proche d'une autre, c'est un numérique qui est quand même adapté au début du XXe siècle.
Il est très très proche d'une autre, c'est-à-dire que l'Internet fonctionne exactement, ou le réseau Steamnet fonctionne exactement de la même manière que notre Internet fonctionne aujourd'hui. Évidemment, les moyens technologiques sont un petit peu plus rudimentaires, puisqu'on a quand même des Steampads. On a des Steampads. On a évidemment les claviers sont remplacés par des machines à écrire. Il fallait bien recycler ce qu'on avait sous la main. Donc des machines à écrire qui sont reliées à des écrans LCD. Les clés USB sont des keybox USB. En fait, c'est une espèce de gros boîtier absolument pas portable. Un petit peu comme, j'ai envie de dire, le premier téléphone portable en France pour lequel il fallait avoir une valise dans le dos. Bon, on va pas parler du Bebop toute la journée. Mais bon. Et voilà. Donc c'est un monde qui a développé plus rapidement besoin de communication, mais pas encore les moyens technologiques. Donc on est sur de l'ancien mixé à du nouveau, en fait. Quoi.
Donc ça s'appelle du steampunk ou du steamnet.
C'est le principe.
Et toi, Guillaume, finalement, quand tu as vu cette histoire, tu as vu tout ça, qu'est-ce qui est important, toi, dans le travail, dans votre relation, le découpage, qu'il décrit, quand il t'envoie quelque chose, il te le décrit oralement, finalement, il ne t'envoie pas de papier.
Si, il m'envoie son scénario, contrairement à notre expérience dans le pays des Franco-Belges.
Il est écrit ou tu dis un peu...
Il
est
écrit. Non, il est juste écrit.
Ouais, non, il ne vaut mieux pas, non.
Voilà. Il ne vaut mieux pas. C'est pour ça que tu es scénariste, alors.
Sinon, c'est la BD, c'est la nouvelle BD sur les Shadocks, c'est plutôt pas mal. Sinon,
les Shadocks ou les Monsieur Patate, il y a moyen.
Voilà, c'est bien.
Écoute, il y en a qui ont fait fortune avec ça. Hein.
C'est vrai. On va pas dire les Vistronais. Non, on ne prend pas les Vistronais. Contrairement à notre expérience en BD franco-belge où il me faisait le découpage page par page et case par case, là, c'était nouveau pour lui, c'est pas un gros lecteur de manga, je lui fais découvrir l'essentiel. Le condensé, le Reader's Digest du manga, et je lui avais demandé de ne pas me faire le découpage case par case. Il me fait une séquence, page par page, et il tire sa méthode de travail de Eric Corberan, qui dit, il fait un titre à chaque page. Si dans le titre il y a une idée, ça va. S'il y a deux titres, c'est qu'il y a deux pages. Si le titre n'est pas suffisamment accrocheur, c'est qu'il n'y a pas de page. Donc il me fait ça page par page, et à l'intérieur je fais mon découpage. Manga ou pas, ça dépend en fait de la teneur de la séquence. Voilà, storyboard après, Rémi me dit que c'est vachement bien, Ankama me dit que c'est vachement bien. Donc voilà, il n'y a plus pas beaucoup de choses à changer.
Ceci est de la science-fiction, évidemment.
C'est ça, c'est une uchronie. Bref, et après c'est les pages.
Après c'est les pages, mais comme tu travailles dans le format manga, alors je vais vous poser une question qui va vous sembler un peu... Pourquoi vous le faites dans le sens des lectures françaises, faire du manga, et pas dans l'autre sens? Moi, c'est une question parce que les fans de manga, en général, ils aiment bien lire dans l'autre sens.
J'avais demandé un sens de lecture japonais. Ce qu'on m'a répondu chez Ankama, c'est vous êtes en France, gardons le sens de lecture occidental. De toute façon, vos lecteurs, ils savent lire dans les deux sens.
Enfin, on est parti du principe peut-être c'est faux, sûr, hein, que les lecteurs de manga savaient aussi lire dans le sens normal de lecture. Enfin,
c'est le cas, non?
Ouais,
c'était anecdotique, en fait, cette histoire. Mais le prochain manga qui sort chez Ankama, de Tony Valente, en juillet prochain, il a le sens de lecture japonais.
Bah, il faut le faire une traduction.
Ça, on ne sait pas encore. C'est super dur.
C'est anecdotique, quoi. Donc, les personnages ont quand même un design quand même assez esthétique par rapport à Jules Verne et tout ça.
Ils sont beaux.
Ils sont beaux, ouais. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont tout l'avenir devant eux.
Ils découvrent la vie.
Conan Doyle a plutôt le rôle du docteur Watson. Hein, c'est un peu ça que t'as fait. Donc, moi, je pense que ce genre d'aventure littéraire et dessinée, ça va être assez jubilatoire quand même.
Ouais, c'est fun. City Hall, c'est fun. Jules Verne est cool.
Jules Verne est super cool. Et ça, c'est la classe. Non, non, on vous raconte cette anecdote parce que c'est une anecdote qui nous fait plaisir. On a quand même. Combien elles étaient ?
Elles étaient deux ou trois.
Filles, 14 peut-être 14-15 ans, qui sont rentrées dans une librairie dans laquelle on dédicaçait et qui sont arrivées en disant Ah, on veut Jules Verne, il est trop cool. Eh ben, je vais vous dire, on a réussi un truc quand on fait rentrer des jeunes de 14 ans qui disent Jules Verne, il est trop cool dans une librairie.
Ouais, bravo. Ouais, quand
même, Parce que non seulement Jules Verne, il est trop cool, mais c'est dur de le deviner quand même. Donc, Ou alors le nôtre, en plus, il a un peu un but de sa personne, il s'aime beaucoup, il sait qu'il est trop cool, donc ça rajoute un petit peu au caractère du personnage. Mais oui, c'est génial de pouvoir exploser tous les codes, de se reposer sur des bases existantes de personnages ayant réellement existé, et donc moi je suis particulièrement, j'hésite à utiliser le terme de fan, mais c'est ça, hein, enfin, je suis un grand lecteur de Conan Doyle et de Jules Verne. Et du coup, c'est génial de pouvoir jouer avec eux, en fait.
Oui, toujours, mais parce que vous leur faites faire exactement ce que vous avez envie.
Ah non, c'est eux qui décident. Hein,
C'est vrai que c'est eux qui décident, ouais. Ouais, mais enfin, Jules Verne, il peut décider beaucoup de choses parce qu'il a quand même. Enfin, mais il est très jeune, il n'a pas encore écrit grand-chose. Il est à quelle époque de son travail d'écrivain, là, à peu près ?
Alors, c'est dur parce qu'on est en 1902. Ouais. En réalité, il est né en 1828.
Ouais, donc
là, il a 20 ans, donc comme vous pouvez le voir, la chronologie est nous. On vous l'a dit, on a fait un bac L, hein, voilà. Donc les maths, tout ça, les dates.
Tout ça, vous en foutez.
Voilà, c'est pas
grave, on est dans la science-fiction, hein, tout est permis.
Il est au tout début, parce que dans le deuxième chapitre, il se présente dans le bureau du maire d'Étel, et il dit oui, j'ai été chroniqué dans les plus grands magazines de City Hall au niveau littéraire, mais bon, moi je suis un inventeur avant tout, j'écris quand j'ai pas envie de dormir.
C'est le côté faussement humble du personnage, il a fait peut-être deux ou trois nouvelles, c'est peut-être le début des voyages extraordinaires. Et il a eu beaucoup de succès critique avec ses bouquins. Et en même temps, quand on lui dit « Vous êtes un super écrivain », il dit « Non, je suis d'abord un inventeur, vous savez. » Histoire de replacer qu'il est inventeur pour ceux qui auraient oublié, quand même. Hein.
Il a fait un bac quoi, lui ?
Alors lui, c'est une bonne... Il a inventé le baccalauréat, je pense.
Il a inventé le baccalauréat, d'accord, ouais. Donc, je vais... Alors, le Sherlock Holmes, là, qui arrive, qui est, lui, alors, tout frais et moulu, on ne sait pas d'où, de quelle école...
Il est en fac de médecine, Arthur Conan Doyle, mais comme le vrai Arthur Conan Doyle.
Oui, qui était médecin, oui, vraiment. Ouais. Il a déjà commencé à toucher la cocaïne et des choses comme ça.
Non, il touche qu'au cadavre pour l'instant.
Oui, c'est ça, il touche qu'au cadavre, ouais. Donc, vous en faites, comme vous amusez à les ridiculiser, les tourner un peu. Donc, par rapport à la Ligue des Gentlemen, où les héros étaient quand même très sérieux d'une certaine manière.
Un peu trop, non ?
Ils étaient quand même fidèles à ce qu'on avait fait leurs auteurs, quoi.
Mais après, la question, c'est est-ce que réellement, quelqu'un comme Jules Verne, avec le génie créatif et inventif qu'il avait, s'il s'était retrouvé dans un monde comme celui-là, où il pouvait créer ce qu'il voulait à partir du papier, où il avait été reconnu comme un auteur à succès, et où en plus son talent d'inventeur avait été reconnu, je pense qu'il aurait fait exactement ça. Moi, il se serait marré. Hein. Parce que Jules Verne, il a été élevé dans une famille... Vous connaissez un petit peu son histoire ou pas ? Il a été élevé dans une famille très, très catholique, un petit peu à la dure. Enfin, son père, c'était... sévère mais juste, mais la gifle. Et il a toujours rêvé de voyages, d'aventures. Et un jour, il a fini par exploser et par créer l'univers littéraire qu'on lui connaît. Et je pense que s'il avait eu la liberté de le faire dans un monde comme celui-là, c'est comme ça qu'il aurait réagi. Il se serait fait plaisir. Il aurait tout cassé. Et il aurait dit non, mais c'est mieux maintenant, vous allez voir.
Il n'y a que les filles, hein, ça ne l'intéresse pas.
Mais les filles, c'est pas intéressant quand on est à son niveau. C'est...
Même 14 ans qui disent que c'est trop cool.
Oui, alors quand je dis que les filles c'est pas intéressant pour Jules Verne, je tiens à préciser pour tous ceux qui penseraient autre chose que les garçons non plus ne sont pas intéressants pour Jules Verne. On a eu plusieurs fois la question. Désolé pour les fantasmes.
Et même des dessins.
On a même eu des dessins, oui.
Donc dans ces aventures-là, bon, et là, Conan Doyle aussi. Tu expliquais tout à l'heure que c'était évidemment le compagnon, enfin celui qui doit accompagner Jules Verne. Donc on a un Français, on a un Anglais, mais comment ils font pour s'entendre ?
Ils s'entendent pas ?
Non, mais c'est pas possible.
Comment ils font pour se comprendre, en fait, c'est ça ?
Non, pour s'entendre, se comprendre, je veux bien, parce qu'on a la science-fiction, mais même dans la science-fiction, la France et l'Angleterre sont des ennemis héréditaires.
C'est vrai.
Mais pas dans City Hall.
Pas dans City Hall. Enfin, si, en plus, dans City Hall, ils sont pas forcément amis, mais Non, je crois que Jules Verne, il est assez ouvert d'esprit, donc il a accepté la culture anglaise, peut-être en dehors du rituel du thé qui est toujours un peu étrange, il faut le reconnaître. Cette histoire de prendre le thé et des cookies à 5 heures, c'est tellement étrange tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui lui fait un peu bizarre, il est un petit peu dépaysé. Mais
rouler à gauche aussi. Rouler à gauche si.
Et rouler à gauche, c'est pareil. Enfin, il roule où il a envie de toute façon. Donc, vous le verrez dans le manga, il roule là où il y a
de la place. Place. Hein.
Ouais, c'est, de la ça, place ouais. C'est un peu ça.
On disait que la France et l'Angleterre étaient ennemis héréditaires.
Pas dans City Hall. Pas dans un monde dans lequel il a fallu développer des nouveaux moyens de communication, dans lequel les problématiques ont été différentes parce que l'histoire avec un grand H a évolué de manière différente. On est typiquement dans une uchronie en fait. Et ce qui s'est passé 200 ans auparavant, c'est-à-dire que la guerre qui a eu lieu, donc la guerre mondiale qui a eu lieu pour détruire en fait ces créatures de papier qui avaient été créées et détruire le stock mondial de papier, a rapproché, on va dire, certaines nations différemment de la réalité. Et la vieille Albion et la France sont plutôt soudées.
Puis c'est après, vraiment, c'est vraiment de la science-fiction. Hein.
Ouais, mais il faut
parce, parce qu'ils nous ont piqué les Jeux Olympiques et tout.
Ah, ouais, voilà, mais si on remet les choses dans leur contexte, je tiens à préciser que l'Angleterre, enfin à un moment donné, il faut être lucide aussi, ça n'est qu'une île qui est juste à côté.
Ouais.
Donc il faut voir qu'ils se calment aussi et qu'ils acceptent de. Voilà, faut pas exagérer.
Donc je voudrais qu'on arrête sur cette image parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Parce que là, on voit.
Il y a un service à terre.
Comment alors, des êtres de papier deviennent vivants.
C'est le principe du bouquin.
C'est le principe du bouquin qui devient réalité.
Alors. On a eu l'énorme chance. Alors ça, c'est une photo tirée du stand qu'on a eu à la Japan Expo. J'ai jamais ressenti une émotion aussi forte, je pense. Peut-être aussi avec la naissance de mes deux enfants. On va mettre ça en premier. Et en deuxième, on va mettre...
de le savoir, j'espère que quelqu'un filme.
Non, mais alors là, t'as la naissance de tes deux enfants qui est la première émotion.
Oui.
Et la naissance des personnages que tu as dessinés.
C'est assez
ça,
fantastique.
C'est extraordinaire. Enfin,
Donc, bon, Ankama nous dit, 2 mois avant la Japan Expo, on vous réserve une petite surprise. On va vous donner 36 mètres carrés, rien que pour City Hall.
Et le mètre carré à Japan Expo est cher.
Hein. Et cher, ouais. Et c'est l'association Steam Rocket, qui est une division de steampunk.fr, la plus grosse communauté steampunk de France, qui va s'occuper de toute la déco. Il y aura une partie industrielle, décor du méchant Black Fall, et une partie intérieure, salon Jules Verne, donc victorien, qui est le service à thé. Tous les jours, pendant 4 jours, à 16h, on offrait le thé aux lecteurs qui venaient se faire dédicacer. Et surtout, ce qu'ils nous avaient oublié de nous dire, c'est qu'il y avait Black Fall... en vrai, à droite.
Avec la chemise blanche.
D'ailleurs, j'ai pas l'air très rassuré. Rémi regarde en coin. On n'est pas. Voilà.
Ouais, parce que je me méfie. Ouais.
Bref. Et donc, du coup, c'était une opportunité aussi géniale pour eux, qui ont tout construit et qui fabriquent eux-mêmes leurs costumes, parce que la marque de steampunk.fr de la Steam Rocket, c'est le do it yourself. Ils encouragent ce genre de manifestation-là et de construction-là. Ils avaient amené des vitrines avec leur fabrication des bijoux, des accessoires steampunk, et du coup c'était génial. On a passé 4 jours de malade, il faut dire.
J'imagine que ça va être hallucinant de voir arriver ces personnages quand même qu'on a créés, de les voir se réaliser, des gens qui s'investissent dedans. Et je trouve que c'est quand même une particularité, je crois, actuellement du manga, enfin de cette forme de narration, de cette forme d'histoire, que de voir que les lecteurs essayent. Est-ce que c'est une identification? Ils jouent à. De transformer en 3 dimensions ce qu'ils font en 2, quoi.
C'est ça.
Ils jouent là-dessus, et ça, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Et l'imaginaire qu'ils développent, et le temps qu'ils y consacrent, pour moi, c'est quelque chose d'additionnel. Alors, comment on peut interpréter ça? Une passion?
C'est ça. Quand on est jeune, on est passionné.
Et une philosophie de vie, ouais, tu dis. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui me semble quand même un peu en dehors du temps, ou des choses comme ça. Et on peut voir ça. Bon, on le retrouve avec des Américains et des héros de cinéma, mais c'est plus facile, parce que là, il faut quand même qu'ils prennent des héros de papier, et souvent, c'est du noir et blanc. Et puis après... Alors, par contre, souvent, il y a quand même les dessins animés japonais qui sont en couleur, donc oui. Là, il y a des exemples. Alors là, vous, c'est encore plus extraordinaire, parce qu'il n'y a pas de dessin animé. Pas encore.
Pas encore de dessin animé.
Après demain.
Ça va venir.
Après demain.
Non, ça va venir.
On n'est pas encore à un stade de notoriété suffisant.
D'accord, vous n'êtes pas assez bankable.
C'est ça.
On va dire comme ça. Voilà. Mais alors, de voir ça, moi, je trouve, alors, l'effort de reconstitution, de recherche, de documentation, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Quoi.
J'ai un bout de tapisserie chez moi.
Ouais, j'ai un bout de tapisserie. Pourquoi, t'as un appartement du 19e siècle,
quoi? Non, ils m'ont envoyé un bout de tapisserie.
Donc, moi, je trouve ça fascinant, et puis qu'ils puissent vous reconstituer. Quoi. Alors, pour vous, ça doit être quand même absolument...
Non, mais je...
Vous devenez voilà. Un peu important, vous commencez à vous ressembler à Jules Verne sur le poste.
Ça dépend, c'est qui fait Jules Verne, c'est lui ou c'est moi?
Non, moi je fais Conan Doyle.
Tu fais Conan Doyle ?
Ça se voit, non ?
Ouais, plutôt le profil Conan Doyle.
Plutôt.
Toi, t'as un côté plus sévère.
D'artichaut, tout ça.
Pas, non, mais c'est pas un côté sévère.
Non, c'est à la fois. C'est une vraie reconnaissance de voir que des gens s'impliquent autant dans la reconstitution, on va dire, d'une partie d'une œuvre qui est la nôtre et à laquelle nous on a travaillé. Il faut quand même se rendre compte que même si on travaille en binôme, on travaille pas dans le même bureau, on n'est pas non plus dans la même ville. Et finalement, scénaristes comme dessinateurs, ce sont des métiers qui sont très très solitaires. Donc c'est une chance pour nous inouïe de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, de pouvoir venir vous voir en conférence, de pouvoir vous voir en dédicace. Et c'en est une encore plus grande de voir que derrière il y a aussi des gens qui s'investissent, qui s'approprient. Et, et les lecteurs les premiers, hein, mais on a une grosse communauté autour de City Hall, je pense notamment sur des réseaux sociaux bleu, soit avec l'oiseau, soit avec le... Enfin bref, il y a une grosse communauté et c'est toujours extrêmement rassurant de savoir que le travail qu'on fait tout seul dans notre coin, les gens sont capables de se l'approprier, de l'aimer et finalement d'en faire leur œuvre aussi, quoi, parce qu'ils en parlent beaucoup. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ça. En tout cas, c'est pour ça que moi je fais ça. C'est dur de passer derrière. Hein.
C'est
clair.
C'est fort.
Moi, je suis sûr que Guillaume, tu as choisi le manga parce que tu savais qu'il y aurait ça. Toi.
Ouais, tout était calculé depuis le début. Et à la fin, c'était un rêve.
Bon, eh ben, écoutez, si vous voulez bien, on va donner la parole au public, voir leurs réactions, ce qu'ils en pensent, s'il y a des questions.
Ah, une question là-bas.
Une question là-bas.
On peut pas se déplacer.
Il y a notre ami technicien qui va amener un micro itinérant.
Monsieur le technicien.
Attends, c'est par là-bas.
Je connais déjà la question et je te réponds, j'aime les tartes à la fraise.
D'accord, j'en avais une autre aussi.
Oui, bonjour, merci pour votre présentation et merci pour ce travail. Je ne connaissais pas et j'avoue que j'ai vraiment envie de lire. Il y a une question que je me pose, pourquoi avoir choisi le style de dessin manga ou pas le style BD européen, par exemple ? C'est par esthétique ?
C'est par souci de cohérence avec le format. Je suis certain, avec l'expérience passée, donc encore une fois, la série en 3 volumes qu'on a fait avant City Hall qui s'appelle Explorers, qui approche à peu près le même thème, on s'est senti super bridé dans 3 fois 46 pages.
Ah, j'aime bien le thème super bridé, moi.
Ouais. Tellement classe. Oh. Excusez-moi. On s'est senti à l'étroit. Comme dans un caleçon Calvin Klein.
C'est pour ça qu'il n'est pas scénariste, hein, je tiens à le préciser. Oui.
Et donc, non, c'était pour aller avec. Et puis moi, je pense qu'en fait, c'est avec City Hall que j'ai enfin lâché les chevaux sur ce que je voulais faire dès le début. Mais en me disant, j'ai du boulot dans la BD franco-belge, on est en France, on est en Europe, je vais me contraindre au niveau du style aussi. Et c'est ça que j'ai envie de faire depuis le début.
Moi, j'ai peut-être une réponse différente de la tienne en tant que libraire. Je constate que les formats manga, c'est plus facile à voler que les 46 SC, les grands formats.
Oh. Et comme on est payé sur les bouquins volés,
voilà,
fait plaisir.
Et que je pense que c'est un choix d'éditorial volontaire.
Bon, donc pour répondre en un mot à ta question, tu vas voir, le travail du scénariste et du dessinateur, c'est un choix artistique.
Bien vu.
Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que ça répond à ta question déjà ? Ouais,
avec plaisir.
N'ayez pas peur, il est presque pas méchant.
Mais j'ai pas mangé.
J'en doute pas. Oui. Je voulais savoir si le fait d'avoir choisi des personnages qui ont des histoires et qui vivent, des personnages historiques qui vivent dans des époques complètement différentes, ça vous crée pas parfois des problèmes de scénario ? Parce qu'ils ont des histoires qu'il faut pas, parfois pas entremêler.
C'est une bonne question. J'y avais pas pensé. Non, c'est une bonne question. Pour être franc, je me suis pas embêté avec ça. J'ai choisi de pas respecter la chronologie, on va dire, à 60 ans près, 70 ans près, ce qui est quand même énorme. Hein. On va dire que... Enfin, c'est un détail. Enfin,
je vais te dire une chose quand même. À l'échelle de la vie humaine, 60 ans, c'est rien.
C'est, oui.
Enfin, de l'espèce humaine.
C'est vrai.
C'est rien du tout.
Vu sous cet angle. Et c'est vrai que du coup... l'avantage d'une uchronie, parce que tout le monde est à l'aise sur le mot uchronie, ou j'imagine que oui, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise et ok, ça marche. Alors, le principe de l'uchronie, c'est de prendre l'histoire, on va faire simple avec un grand H, d'en modifier un événement ou un élément à un point donné, et que cette modification entraîne un changement de l'histoire telle qu'on la connaît. D'accord ? Donc, effectivement, dans la réalité, c'était compliqué de se faire rencontrer tous ces personnages et de se faire croiser toutes leurs histoires parce qu'ils se sont probablement jamais croisés dans la vie et ils ont des histoires tellement particulières que probablement ça n'aurait plus jamais arrivé. dans un monde comme celui de City Hall, qui est une uchronie dans laquelle le passé a été modifié, j'ai voulu m'attacher aux personnages que j'aime ou que je respecte, et respecter, on va dire, leur personnalité, mais du coup, j'ai pas du tout tenu compte de leur histoire, même si régulièrement, je me permets d'en faire des clins d'œil, histoire de rappeler aux lecteurs que ce sont des gens qui ont vraiment existé et qui ont vraiment compté dans l'histoire avec un grand H. Je sais pas si ça répond à la question.
Faut absolument m'en faire une DeLorean dans le troisième.
On va y penser. Une question par là-bas, ça marche.
Ouais, bonjour. J'ai pris la conférence en cours, donc je ne sais pas si vous avez parlé de la Ligue des Gentlemen extraordinaire, mais est-ce que ça a été une préoccupation ou une inquiétude au moment d'éviter la comparaison au moment de fomenter le projet ?
Alors, ça a clairement été une inspiration, en tout cas. Une préoccupation de ne pas faire la même chose, non.
Visuellement, c'est vraiment très différent.
Visuellement, c'est différent. Scénaristiquement, on est dans un univers qui est complètement différent. Et cela dit, si la question s'est posée au tout début, et la réponse que j'ai trouvée à cette problématique, c'était déjà pour commencer de n'exploiter que des personnages qui ont réellement existé, plutôt que des personnages de fiction, comme c'est le cas parmi les membres de la Ligue, en fait. Mais oui, effectivement, si, j'ai toujours eu ça en tête, et j'ai toujours fait attention à la fois être respectueux de la Ligue et de ne pas faire de copie, et à la fois suffisamment proche pour que l'hommage appuyé que City Hall est, en reste un, quoi.
Alan, si tu nous écoutes.
Bonjour.
Bonjour.
Une question que je me pose, c'est que je suis un gros lecteur de franco-belge et ce que je trouve un peu difficile dans les mangas, c'est la description case par case de l'action. Et je voulais savoir si vous avez forcément respecté le manga tel qu'il est dans la description case par case, ou est-ce que vous êtes un peu inspiré de la franco-belge justement pour aller un peu plus vite dans l'action.
Tu veux parler du surdécoupage par moment,
oui,
qu'il peut avoir,
ouais. Tout à fait.
Je ne saurais pas te répondre précisément. Je crois qu'il y a tout qui est mélangé. Je suis un gros lecteur de comics, un gros lecteur de manga. J'ai fait 10 ans de franco-belge. C'est en fonction de la scène, je vais adopter un découpage typiquement manga avec les cases sur le côté, les cases taillées en biseau, les personnages qui sortent. De temps en temps, je vais faire des trucs ultra comics avec des poses punchy et tout. Et dans les moments où il y a besoin d'un peu plus de calme, que c'est par exemple dans le deuxième volume, l'enquête de Conan Doyle, voilà, c'est vraiment, là c'est pas du Tintin, mais bon, voilà. Donc ça dépend du moment, en fait. Je réfléchis pas vraiment, ah ouais, ce truc là je vais le faire comme ça. Ça vient au moment où je prépare le storyboard de l'épisode.
Et je crois que ça va répondre en partie peut-être à ta question. Donc moi non, il y a une grosse inspiration franco-belge, mais tu peux difficilement faire autrement quand tu as déjà 10 albums de franco-belge derrière toi, justement. Et je pense que la plus grosse fierté qu'on a, c'est que justement on a aujourd'hui des lecteurs qui sont nos lecteurs de nos séries précédentes, qui ont pour certains lu un manga pour la première fois en lisant celui-là, et qui nous ont dit, ok, on s'y retrouve, on comprend, ça nous parle, ça fonctionne. Donc je pense que forcément il y a un mix des deux qui fait que tu vas pas te retrouver, parce que moi aussi j'ai la même problématique que toi, hein. Je suis pas un lecteur de manga, et c'est typiquement le genre de truc qui justement me hérisse un peu. Et non je crois que ça fonctionne assez bien, ouais.
Rien à voir avec Sonic, hein, hérisse.
Non, rien à voir, il est toujours pas scénariste, heureusement.
Bonjour, moi je voulais savoir par rapport aux différents personnages que vous avez créés, est-ce que vous avez lu vraiment l'œuvre de Jules Verne, est-ce que vous êtes vraiment renseigné sur l'ensemble de ce qu'ils ont fait, ou est-ce que vous êtes servi du tronc commun culturel qu'on a sur cela pour après broder vos personnages?
Moi, alors, oui. Moi oui.
Toi tu dis ça, toi t'as brodé, c'est ça?
Ouais.
Ok. Je suis pas un spécialiste de Jules Verne et j'ai pas lu l'ensemble de son œuvre, même si je m'y attelle progressivement. Je pense pas non plus que je sois un lecteur lambda qui a lu un de ses bouquins. Je dirais que j'ai accompli une partie du chemin en lisant une grosse partie de ses bouquins. Donc je me suis un petit peu inspiré de la manière dont il écrit et de ses univers surtout. Mais ce qui m'intéressait au plus haut point, c'était d'abord la personnalité de Jules Verne. Qui il était, comment il fonctionnait, pourquoi il réagissait comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais un petit peu de son enfance. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu un grand voyageur dans l'âme, ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné il a été cet écrivain fantastique et génial qu'il est devenu. Et c'est plus sa personnalité à lui qui m'a intéressé. que ce qu'il a écrit dans l'ensemble, même si j'en ai lu une grande partie. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Moi,
ah, une dehors.
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question au niveau justement influence. On a parlé de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et vous avez parlé au niveau du design de Takeshi Obata. Je voulais savoir s'il y avait eu d'autres influences au point de vue du manga que vous avez utilisé. Je pensais en particulier à une série de romans qui ont été ensuite adaptés en série télé qui s'appelait Read or Die, qui avait également une thématique sur le papier et sur le steampunk en fait.
Alors, moi, non, je connais pas.
C'est un des premiers animés que j'ai vu. Étant une grande personne, sinon c'est Dragon Ball, tout ça, comme tout le monde. Ouais, Read or Die, j'ai pris une claque monstrueuse. Après, ce qui me sert beaucoup, c'est Fullmetal Alchemist aussi. Voilà, que des trucs un petit peu avec du sang, des larmes. Voilà.
Et moi, non, parce que je connais pas du tout. En revanche, probablement, alors j'hésite toujours à dire que je suis aussi de la génération Club Dorothée, parce que les gens vont savoir qu'on est vieux et tout après, alors bon. Mais c'est vrai que je regardais pas mal d'animés aussi quand j'étais gamin, et on m'a fait la réflexion il y a pas longtemps, et j'avais oublié ce dessin animé et son histoire depuis bien longtemps, mais on m'a fait remarquer que City Hall avait par certains côtés un petit côté Wingman.
Ah, oui.
Et je pense qu'en fait inconsciemment j'avais dû ranger Wingman quelque part dans ma tête et son cahier des rêves, et je pense que ça a dû jouer, et pour ma part scénaristiquement évidemment Death Note a joué aussi une grosse influence dans l'écriture.
Moi, j'ai une dernière question pour vous. City Hall, le troisième épisode va paraître au printemps prochain, là, ou à la fin de l'hiver.
17 mars.
17 mars, exactement.
9h58 et 37 secondes.
D'accord. On retient, on va commencer le décompte. Et donc, ça s'est arrêté. Donc, vous allez faire peut-être une deuxième saison.
Oui.
Probablement. Alors, est-ce que vous envisagez d'amener des personnages nouveaux, toujours issus, justement, de cette... Je ne vais pas dire le bestiaire, mais... Je sais pas, moi, un Maurice Leblanc ou des personnages américains ou des personnages qui viennent d'ailleurs.
Il va y avoir un et puis
le tout épaulé par. Non, on peut balancer quelques noms. Ça me
tu peux balancer des noms. Allez, balance des noms.
En vrac, comme ça, on donne des noms de gens qui pourraient passer. Alors, on vous donnera pas évidemment leur implication dans l'histoire, qu'ils soient juste secondaires de passage ou primordiaux. Mais pour ceux qui aiment un peu la science-fiction, on risque de croiser Howard Philip Lovecraft, probablement même avant la fin du premier cycle.
Avec du papier, lui, il rigole pas.
Non, c'est pas un marrant, non. C'est le moins qu'on puisse dire, puis il a un peu torturé ce garçon. On va sûrement croiser Agatha Christie, on va sûrement croiser George Orwell, on va sûrement croiser Victor Hugo. Qui est-ce qu'on va croiser d'autres dont on a parlé? On a parlé de Maurice Leblanc, je crois qu'on va le croiser.
Maurice Leblanc, on va le croiser
également. Ouais.
Alors, à propos de Victor Hugo et de Jules Verne, il y a comme une anecdote célèbre dans le festival. On avait commandé à un dessinateur des portraits. Et le mec, on lui demandait Jules Verne, et il avait fait le portrait de Victor Hugo.
Il se ressemble pas mal. Hein.
Il se ressemble beaucoup. Alors fais attention, toi, de ne pas nous faire, quand tu vas faire Victor Hugo, quand même que.
C'est le côté Père Noël.
Ouais, le côté Père Noël, la barbe, là.
Ouais. C'est vrai que physiquement, il y a une ressemblance évidente entre Jules Verne et Victor Hugo.
Voilà, mais on va pas faire. J'ai pas fait un Jules Verne avancé dans son âge. Je pense que Victor Hugo sera.
Lui, avancé
dans la
son
quarantaine.
Âge,
ouais. Je pense, hein, non ouais, dans je la pense quarantaine. Que oui. Bon, donc il n'aura pas sa belle barbe.
Bon, bah écoutez, moi je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas City Hall, à découvrir la série.
Merci.
Le tome 1 et 2 qui sont actuellement disponibles.
On est en dédicace cet après-midi sur le salon. Et voilà, le tome 1 et 2 sont disponibles, le tome 3 sort bientôt. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Il y a quelqu'un Ah, il y a le jeune homme là.
Génial. Ce sera pour toi la dernière.
C'est fini.
Désolé.
Mais vas-y, pose-la, puisque tu es au premier rang, quand même, on va la répéter.
Est-ce que ça arrive aux personnages de Conan Doyle et de Jules Verne d'avoir des petits clins d'œil à leur œuvre littéraire?
C'est gros spoil de la mort.
C'est une super bonne question. Oui, oui, il y en a plusieurs. La première, on en a parlé tout à l'heure, mais on l'a suggéré, c'est qu'effectivement, dans un univers comme celui-là et dans une enquête comme celle-là, finalement, Conan Doyle joue le rôle de celui qui sera Watson dans son œuvre. Jules Verne joue le rôle de celui qui sera Sherlock Holmes, mais sans avoir ses capacités de déduction. Ça, c'est Conan Doyle qui les a. Et en fait, l'expérience que va vivre Arthur Conan Doyle à travers cette enquête et à travers toutes celles qui vont suivre, son rôle en lieu et place de Watson, son rôle en tant qu'enquêteur, le rôle de Joseph Bell, qui était celui qui l'a inspiré, son professeur de médecine, pour faire Sherlock Holmes, tout ça, toutes les aventures qu'il va vivre dans City Hall, ne peuvent l'amener au final qu'à créer Sherlock Holmes tel qu'il l'a imaginé dans la vraie vie. Donc il y a un vrai pont entre les deux univers. Et évidemment, Jules Verne étant un inventeur un petit peu barré, il n'est pas impossible du tout qu'en réalité, il ponde quelque chose qui ressemble assez au Nautilus, histoire d'aller voir ce qui se passe au fond du lac.
Bon, bah, écoutez, on va remercier Rémi et Guillaume. On va leur souhaiter
merci à vous.
Bonne chance et gros succès.
Merci à vous.
Cage belly.